9h-10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Demain, lundi, la ministre Agnès Buzyn présente son plan d'urgence pour des urgences en souffrance depuis des mois avec, d'après le JDD, des ouvertures de lits, une réforme de la tarification et la création d'un numéro d'urgence unique. Mon premier invité sera le chef de service des urgences de l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis, Mathias Vargon. Demain, moins de pesticides aux abords des maisons. Une distance minimale de 5 à 10 mètres sera fixée entre les habitations et les zones d'épandage des produits phytosanitaires. Mais les pesticides sont-ils vraiment dangereux pour les consommateurs? Avec nous dans quelques minutes, le physico-chimiste herbétiste qui combat ce qu'il appelle la terreur alimentaire et soutient que notre nourriture n'a jamais été aussi saine et contrôlée. Avec 25 autres experts de l'Académie d'agriculture, il publie le grand livre de l'alimentation. Demain, le soupçon généralisé sur toutes les informations, toutes nos certitudes scientifiques, y compris pour prétendre que la Terre est plate. Le complotisme continue de se répandre. Rudi Reichstadt, qui dirige le site Conspiracy Watch, nous explique pourquoi et comment la combattre. Il publie demain l'opium des imbéciles. Enfin, demain, le nouveau Clapiche, Cédric Clapiche, le cinéaste de l'Auberge espagnole des Poupées Russes, d'un air de famille, met en scène Anna Girardot et François Civil, deux trentenaires en quête du grand amour dans la solitude des grandes villes. Deux mois sort mercredi prochain et Anna Girardot sera notre dernière invitée de C'est arrivé demain.
Europe 1,
c'est arrivé demain.
Bonjour Mathias Vargon.
Bonjour.
Vous dirigez le service des urgences de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. L'été a été difficile?
L'été a été difficile d'abord parce qu'il y a eu la canicule. Donc c'est plus de monde que ce qu'on aurait pu prévoir. Et puis l'été c'est toujours difficile parce qu'on manque de personnel, on manque de médecins, c'est de façon chronique. Mais l'été il faut bien que les gens puissent aussi partir en vacances avec leur famille. Et du coup ça tend encore plus les plannings.
Les urgentistes débordés, épuisés qu'on entend depuis 6 mois, les personnes âgées qui dorment dans des couloirs, c'est partout, dans tous les services, ou ce sont des surchauffes localisées?
Alors, c'est pas partout dans tous les services, c'est pas dans le mien, mais c'est exceptionnel. En réalité, c'est beaucoup, dans beaucoup de services, c'est quelque chose de chronique, et c'est quelque chose qui dure depuis des années, et c'est quelque chose d'international.
International?
Ouais, tout à fait, dans tous les services d'urgence du monde, alors pas tous, mais aux États-Unis, en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, en Australie, dans d'autres pays européens, on a ces problèmes de surcharge des urgences et de bouchons en fait à l'entrée de l'hôpital.
Ça tient à quoi?
Bah, ça tient à la réduction des lits. Il y a une énorme réduction des lits ces dernières années, à un fonctionnement de l'hôpital qui n'est pas celui des urgences. On fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pas l'hôpital. Et donc, on a ce type de problème qui fait qu'on n'arrive pas à rentrer. Alors, ce n'est pas que des personnes âgées, hein, c'est beaucoup de patients. Et puis, il faut voir que le mouvement interurgence est parti des hôpitaux universitaires. C'est encore pire dans les hôpitaux universitaires, puisqu'il y a une surspécialisation des services.
Les CHU. Hein.
Oui, les CHU, et les services refusent des patients.
Les services refusent des patients. Pourquoi c'est pire dans les CHU?
Ben parce que dans un CHU, moi, je vais vous donner un exemple, parce que ça sera plus parlant. J'ai travaillé dans un CHU où il y avait un service de cardiologie. Et je sais que ça existe encore. Ce service de cardiologie est spécialisé dans les coronaropathies, l'infarctus du myocarde, pour être plus clair, et tout ce qui est insuffisance cardiaque, c'est-à-dire quand votre cœur n'est pas assez fort, eh ben, ces patients-là, et puis ces patients qui sont plus âgés, n'allaient pas dans ce service de cardiologie.
Deux chiffres, en 20 ans, deux fois plus de passages aux urgences. De 10 millions, on est passé à 21 millions par an, et 100 000 lits supprimés dans les hôpitaux sur 500 000. Donc, ça ne peut pas marcher. Il faut inverser la tendance. Il faut inverser ces deux chiffres, c'est-à-dire arrêter les suppressions de lits, Mathias Vargon, et essayer de limiter les admissions aux urgences.
Alors, inverser les suppressions de lits, oui, probablement. Il y a eu un mouvement quand même pas complètement négatif avec de l'hôpital de jour où finalement vous préférez rentrer le matin à l'hôpital et en sortir le soir. Il ne faut pas être complètement négatif vis-à-vis de ça. Mais à un moment, c'est vrai qu'on n'a pas en fait la marge. Tout a été calculé sur des moyennes de patients. Alors en statistique, ça rentre. En pratique, ça ne rentre pas puisqu'il y a des variations saisonnières, quotidiennes qui font qu'on n'arrive pas à mettre les patients dans les lits. Pour ce qui est des patients aux urgences, on a 20% des patients en gros qui relèvent purement de la médecine générale. Et on a quand même 30 à 40% des patients qui ont besoin du plateau technique, qui n'ont pas forcément besoin de tout le plateau technique des urgences, qui n'ont pas besoin de l'hospitalisation derrière ou des avis de spécialistes. Et ces patients-là, probablement qu'il faut trouver un nouveau moyen de les recevoir.
Qui pourrait être ?
Qui pourrait être, ce qui existe déjà aux États-Unis beaucoup, qui s'appelle Urgent Care, ce qui est créé en France par beaucoup d'anciens urgentistes d'ailleurs, et qui sont des structures qui sont ouvertes de 8-9 heures du matin jusqu'à 22-23 heures, et qui reçoivent des patients avec un plateau technique de la radiologie, qui font de la petite traumatologie, et qui font aussi de l'urgence vraie, mais qui ne va pas être forcément hospitalisée. Une douleur abdominale, ça peut être rien, comme ça peut être une appendicite, comme ça peut être autre chose.
On va regarder ça dans le détail, y compris avec des pistes qui sont suggérées ce matin par la ministre Agnès Buzyn dans le journal du dimanche. Quel est votre regard à vous, chef de service, sur le mouvement qui s'est propagé maintenant à la moitié des services, mouvement de grève sans arrêt de travail, hein, les personnels portent des brassards.
Alors, d'abord, à propos de ce mouvement de grève, il faut quand même que je fasse une déclaration de conflit d'intérêts parce que, malgré tout, comme je ne suis pas tout à fait d'accord, je suis marié à un des membres du gouvernement. Maintenant, ça fait longtemps qu'on est marié, on n'est pas forcément d'accord sur tout. Et je suis urgentiste depuis 25 ans. Ceci étant dit, oui, le mouvement...
Il s'agit d'Emmanuel Vargon.
Ouais, voilà. Emmanuel Vargon, qui en plus n'est pas à la santé, heureusement. Et donc, sur le mouvement inter-urgence, en fait, moi, j'ai une vision un peu... Comment dire ? Je suis un peu gêné. Autant au départ, il y avait les primes, l'augmentation des infirmiers, une prime de risque. Et ça, évidemment, il faut la soutenir parce que ça fait trop longtemps que ces gens-là travaillent dans des conditions dures. Enfin, nous travaillons dans des conditions dures et c'est différent du reste de l'hôpital. Faut pas se voiler la face. Donc, évidemment, augmenter le nombre d'infirmiers. Là, c'est là où je suis un petit peu gêné parce que, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de services de province, de région parisienne où il n'y a pas suffisamment d'infirmiers. Ce mouvement, il est parti de Paris, il est parti du plus grand CHU de France, la PHP. Or là, quand on regarde les chiffres, c'est les hôpitaux les mieux dotés en infirmiers, mais à un niveau extrêmement important. Et donc, il y a réellement un problème d'organisation. Et la Riboisière, dont le mouvement est parti, il y a un problème d'organisation. Ils viennent d'embaucher deux nouveaux chefs de service, alors qui sont sous-chefs de service, mais l'ancien chef de service de Chartres et l'ancien chef de service d'Évreux. Et donc, il y a un problème d'organisation de l'hôpital, des urgences probablement, qui fait que... Et puis, un problème local, ils sont à la gare du Nord, qui fait qu'il y a un vrai souci. L'hôpital d'à côté, qui est l'hôpital Bichat, et dans l'interview du JDD aujourd'hui, à côté de celle de Hugo Huon, il y a celle du professeur Casalino de Bichat.
Hugo Huon qui est l'un des porte-parole du voilà. Collectif inter-urgence.
Et donc le professeur Casalino qui a créé le service d'urgence, enfin qui a recréé le service d'urgence de Bichat, c'est l'hôpital d'à côté, c'est les conditions qui sont similaires. Et pourtant, la situation est complètement différente, avec malgré tout les mêmes problèmes de lits d'aval. Donc on peut quand même faire quelque chose sur l'organisation, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre du monde dans certains endroits.
Donc il y a un problème de management dans un certain nombre de services. Quand le collectif inter-urgence dit ce matin envisager de nouveaux arrêts maladie groupés, vous en pensez quoi, Mathias Vargon ?
J'en pense que du mal, en fait. Parce que je pense que ces arrêts maladie, c'est la limite. Un, ce sont des jeunes infirmiers pour la plupart. L'arrêt maladie, c'est quand même quelque chose d'extrême. Et puis, l'arrêt maladie, c'est fait en sorte pour faire capoter tout le service. Donc, on va reporter la charge sur les services d'à côté. En fait, l'idée, c'est de mettre en carafe tous les services d'urgence dans un certain périmètre. Là, on commence à mettre la vie des patients en danger. C'est arrivé chez nous. Il y a eu une salve d'arrêt maladie. Il y a un infirmier qui a dû continuer pendant 5 heures son service, puisqu'on n'avait personne pour le remplacer et que malgré tout, on est service public. Ça, il l'oublie un petit peu. On a une obligation de continuité du service public. Et derrière, ce sont les médecins et des intérimaires qui ont assuré toute la journée. Et ça a été un enfer pour ces médecins et ces infirmiers. Et donc, l'objectif, c'est quoi ? C'est qu'à la fin de la journée, ces médecins et ces infirmiers, alors intérimaires, disent « bah on n'en peut plus, on ferme ». Mais si on ferme, malgré tout, on va mettre la pression sur l'hôpital d'à côté qui va fermer. Et voilà, et là, il y aura des morts.
Une pause et on poursuit avec vous. Mathias Vargon, le chef des urgences de La Fontaine en Seine-Saint-Denis.
Europe 1. De 9h à 10h, vous retrouvez Patrick Cohen avec C'est arrivé demain sur Europe 1.
Et la question des urgences qu'on examine avec le docteur Mathias Vargon, des lits, oui, il en faut davantage, disiez-vous. Il faut stopper le mouvement de fermeture. Est-ce qu'il faut aussi, puisque vous nous disiez que certains patients, un certain nombre de patients relevés de la médecine de ville, est-ce qu'il faut freiner l'augmentation exponentielle des admissions d'urgence ? Est-ce qu'il faut dissuader certains patients ? Est-ce qu'il faut un filtrage, Mathias Vargon ?
Un filtrage, c'est compliqué. Est-ce qu'il faut renseigner les patients sur les différents modes de consultation ? Oui, certainement. Alors, ce n'est pas avec le système actuel de l'appel au 15, parce que c'est déjà des services débordés. Alors, tout le monde parle du Danemark. Alors, au Danemark, oui, il y a un filtrage, mais il y a aussi des conseils. Ces conseils sont donnés par des infirmières ou des infirmiers. Et c'est plutôt ce mode-là qu'il va falloir développer. Arrêter d'être en France sur un mode soit secouriste comme les pompiers, soit médical pur comme le SAMU SMUR, mais commencer à faire confiance à nos infirmiers, aussi bien à l'intérieur des urgences que dans les camions, que justement dans ces centres d'appel, où là, on aura des professionnels qui pourront indiquer aux patients où ils peuvent consulter. Et puis, il y a tout ce qui est informatique, il y a des modèles de consultation par Internet.
Ce qui a été annoncé il y a quelques jours, c'est que les SAMU vont être autorisés à envoyer une ambulance vers un cabinet de ville ou une maison de santé.
Alors là, je suis très dubitatif. Il faudra que la maison de santé puisse recevoir le patient. Il y a des horaires.
C'est pour des examens de radiologie, par exemple.
Oui, mais moi,
ou de biologie.
Je vois pas exactement ce qui va se passer. J'ai lu ce que disaient les médecins de ville. Eux aussi sont très dubitatifs. Après, tout ça, ça s'organise.
Le numéro unique, au lieu du 112, les urgences, le 15, le SAMU, le 18, les pompiers.
Oui, alors oui, évidemment, le numéro unique. La question n'est pas tant du numéro unique. Il faut un numéro unique. Il faut savoir qui y répond. Et après, quelle est la solution apportée?
Le manque de personnel. Le gouvernement dit oui, il manque des médecins, mais il n'y a pas de médecin. On n'en trouve pas.
Alors c'est vrai, il n'y a pas de médecin. Moi, j'ai énormément de mal à embaucher. Je n'en trouve pas. Je ne trouve pas de médecin à diplôme français. J'embauche des médecins étrangers de bonne qualité. Donc ce n'est pas un problème de qualité, mais c'est un problème de difficulté. Et puis, on a la concurrence du pas du privé, de l'intérim. Cette concurrence-là qui fait qu'il y a des services hospitaliers comme les nôtres qui n'arrivent pas à trouver de médecins, de plus en plus proches de Paris ou des grandes villes. Et donc, il y a une concurrence qui se fait puisque les directeurs sont entre le marteau et l'enclume. À la fois, on leur dit qu'ils ne peuvent pas embaucher des médecins plus chers, ils peuvent pas. Et de l'autre côté, on leur dit qu'il faut qu'ils restent ouverts. Et donc, ils prennent des intérimaires qui, c'est la loi du marché. Plus c'est rare, plus c'est cher.
Les super infirmiers qui auront le droit de faire des points de suture ou d'examiner des fractures moyennant une prime, ce qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui, ça peut aider aussi dans les services?
Oui, mais il ne faut pas en faire des super infirmiers, il faut créer un nouveau corps, comme ce qui s'est aux États-Unis qui s'appelle les nurse practitioners, des gens avec des diplômes et pas du bricolage, des gens avec des diplômes validants et puis qu'on les paye différemment des infirmiers. Pas une prime, vraiment quelque chose qui mettent en valeur tout ce qu'ils savent. Et puis, il ne faut pas se limiter à des petites sutures. C'est ce qu'on fait faire à nos externes. C'est-à-dire aux étudiants en médecine qui arrivent à l'hôpital, la première chose qu'on leur fait faire aux urgences, c'est leur apprendre à suturer. C'est quand même pas le geste du siècle non plus. Donc, il faut que les infirmiers puissent acquérir beaucoup plus de capacités et que ça soit valorisé vraiment.
À vous entendre, Mathias Wargon, on peut résoudre la crise actuelle par un ensemble de petites choses sans forcément tout changer, tout révolutionner le système, c'est ça?
Ah non, moi je pense qu'il faut révolutionner le système. Il faut tout remettre à plat, que ce soit le système des urgences que je connais bien et qui marche sur la tête depuis des années, et puis l'amont et l'aval, et puis aussi expliquer aux gens que, on est tous responsables et il faut savoir se servir du système de santé.
Merci Mathias Wargon, chef du service des urgences de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Dans un instant, les complots imaginaires, les complotistes, comment les repérer et les combattre? Rudi Reichstadt publie L'opium des imbéciles. La critique du complotisme est un sport de combat.
Europe 1. Jusqu'à 10h, on vous retrouve, Patrick Cohen, avec C'est arrivé demain sur Europe 1.
Il y a dans le monde des millions d'individus, voire des dizaines de millions, qui considèrent que la Terre n'est pas ronde, mais qu'elle est plate. C'est le stade suprême du complotisme, celui qui nous paraît naturellement ridicule. Et pourtant, les théories conspirationnistes de toutes sortes ont gagné le débat public sans opprobre, parfois sans être contredite. Bonjour Rudi Reichstadt.
Bonjour.
Vous dirigez le site de référence Conspiracy Watch, vous travaillez aussi pour la Fondation Jean Jaurès et vous publiez L'opium des imbéciles chez Grasset. D'abord, c'est vrai, le platisme gagne du terrain dans le monde?
Le platisme gagne du terrain dans le sens où, il y a encore 10 ans, par exemple, ça n'était pas un sujet. Aujourd'hui, vous avez des groupes sur Facebook de platistes organisés et c'est une idée qui défraye de plus en plus la chronique de l'actualité.
Mais ce n'est pas le cœur de votre livre. La plupart des théories du complot, écrivez-vous, ne sont pas le signe d'un dérèglement mental. Ils sont au service d'un discours politique ou d'une pensée raciste ou stigmatisante. On va en entendre quelques exemples qu'on pourra commenter ensuite.
Oui, tout a été fait pour que le candidat élu soit un candidat libéral, un candidat de l'Europe de Maastricht, on sait très bien. Marine Le Pen, il faut absolument qu'elle soit au second tour.
Qui, Michel Onfray, décide de ça? Qui, où, quand?
Les médias dominants.
Si le fait de ne pas avoir de preuves, ça me donne pas confiance, et que c'est ça être complotiste, dans ces cas-là, dans ces cas-là, je suis complotiste, parce que j'ai aucune confiance en ce que je vois pas.
C'est pas un attentat terroriste, l'attentat de Nice?
C'est un attentat, mais pas forcément terroriste.
Si jamais un monsieur va pas gagner, il y a quand même les Rockefeller, les gens comme les Rothschild, les grosses familles qui dominent quand même les continents. Donc c'est même pas la France, on parle des continents.
Alors Monsieur Silverstein, il est extraordinaire. Il signe le bail, donc, et l'assurance, hein, pour les trois tours en question. Silverstein, souvenez-vous bien de son nom. Deux traites plus tard, alors si c'est pas avoir la moule, ça c'est quoi? Le 11 septembre, il a les trois silvers, il a les trois silvers qui tombent. Les trois tours, et il touche 3 milliards et demi, tu vois, de dollars.
C'était Michel Onfray sur Europe 1 avec Maxime Switek, le gilet jaune Maxime Nicole sur Combini, Jean-Claude Van Damme au Grand Journal et Jean-Marie Bigard, extrait d'une série de vidéos sur le 11 septembre. Rudi Reichstadt, ce ne sont pas des marginaux et ce ne sont pas des idées en marge dans l'opinion publique, ce qu'on a entendu.
Non, ce ne sont pas des idées si marginales. L'idée selon laquelle Emmanuel Macron aurait accédé en fait à l'Élysée au terme d'une sorte de vaste conspiration des élites, de l'oligarchie, etc., est une idée assez largement banalisé, non pas seulement d'ailleurs à l'extrême droite, mais aussi dans une partie de la gauche radicale. C'est une idée qui est évidemment très contestable lorsqu'on y réfléchit simplement 5 minutes, mais qui traverse toute la société.
Sans parler du 11 septembre, évidemment.
Sans parler du 11 septembre. Vous savez, on a fait avec la Fondation Jean Jaurès, ces deux dernières années, deux grandes enquêtes d'opinion. On s'aperçoit que le complotisme, dans une forme assez vive quand même, concerne entre un cinquième et un quart de l'opinion publique française. Donc non, ce n'est pas un trouble psychique, c'est avant tout un discours politique.
Alors l'idée souvent entendue, vous l'évoquez et vous la réfutez dans votre livre, Rudi Reichstadt, c'est que, comme on peut dire que même les paranoïaques ont des ennemis, les complotistes ont raison de croire au complot, puisqu'il y a de vrais complots.
Oui, mais ça, c'est la même chose que de dire qu'il y a des incendies de forêt parce qu'il y a des forêts. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on ne parlerait pas de théorie du complot s'il n'y avait pas des vrais complots. Il y en a eu dans l'histoire, il y en aura encore. Il y a des complots, certes, qui relèvent du secret et de l'entente en vue d'un but malveillant ou répréhensible, au moins. Ça, c'est coextensif de l'histoire de l'humanité. Il y en aura toujours. Mais de dire que c'est la principale cause de l'idéation conspirationniste, c'est-à-dire des croyances conspirationnistes, là, je crois que c'est une erreur. Parce qu'en réalité, on ne parle pas la même chose quand on parle des vrais complots et des faux complots. Les faux complots, c'est le domaine de l'immatériel, le domaine des croyances, des mythes, des affabulations, du mensonge également. Donc, lutter contre le conspirationnisme, lutter contre ces croyances infondées, ça n'est pas de dire qu'il n'y a pas de complot, puisque très souvent, d'ailleurs, dans l'histoire, ces théories du complot, ce sont les produits d'opérations, de manipulation, d'intoxication de l'opinion publique. C'est-à-dire, l'Union soviétique a fait ça très bien il y a quelques années, la Russie de Poutine le continue à le faire. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de machination et pas de manipulation. Il s'agit de dire qu'on est là face à un raisonnement fautif, intellectuellement de peu de valeur, et que penser de manière critique, ça suppose une méthode.
Autre idée développée par un certain nombre d'intellectuels ou de penseurs, c'est normal que les gens croient au complot puisque les autorités nous mentent si souvent. Ce que vous appelez l'innocentisme.
Oui, ça c'est vraiment rentré dans le système de justification du conspirationniste, à mon avis. C'est-à-dire que on lui concède l'essentiel. Si c'est si facile aujourd'hui de croire à des théories du complot, c'est d'abord parce qu'elles se sont multipliées grâce à un écosystème technique, technologique, Internet en particulier, qui rend ces choses-là accessibles immédiatement et nous y expose plus que jamais dans notre histoire récente.
Ce qui vous choque aussi, et c'est pour ça que ça se diffuse sans doute, c'est que vous êtes frappé, choqué ou heurté par une sorte d'indulgence de beaucoup de médias à l'égard de ce qui se répand et dont on a entendu quelques extraits à l'instant.
Une indulgence, une complaisance dont il faut trouver l'origine dans une forme de lâcheté intellectuelle d'abord. C'est pas évident de lutter contre ça. On prend des coups quand on lutte contre ça. On est soi-même accusé de comploter, d'ailleurs, ou d'être complice du grand complot, des médias, des scientifiques, des politiques.
Ça se fait souvent au nom de la liberté d'expression et l'idée que toutes les opinions se valent.
l'idée que toutes les opinions se valent. Et puis, il y a une forme de démagogie également. C'est très, si vous voulez, lorsque vous avez 25% ou 20% de l'opinion qui adhère à ces choses-là ou qui adhère très facilement à ces choses-là, les ménager, ça peut vous permettre de parler à toute une partie de la population qui prétend lutter contre le système, etc. Donc, il y a énormément de démagogie. Et malheureusement, ces choses-là ne sont pas sans conséquence.
Ouais, alors, vous n'êtes pas dans la démagogie puisque vous les traitez d'imbéciles, hein, en gros, hein, ceux que... qui y croient. Les imbéciles de votre titre sont ceux qui ne sont pas ceux qui diffusent les théories du complot, mais ceux qui y croient. Pourquoi ce terme d'imbécile, l'opium des imbéciles, Rudi Reichstadt ?
Pour un millier de raisons, mais ce qu'il faut dire vraiment, c'est que d'abord, ce que j'ai voulu faire, c'est appeler un chat, d'accord ? Appeler les choses par leur nom. Lorsque vous en êtes, par exemple, à estimer que la photo du petit Aylan Kurdi sur une plage de Turquie, son corps inanimé, est un montage. Lorsque on vous explique que Mohamed Merah est la vraie victime de toute cette histoire, lorsque on vous explique qu'on n'a pas marché sur la Lune ou que la Terre est plate, il faut vraiment écouter précisément ces discours-là. Oui, je crois qu'on n'est pas infondé à qualifier ces gens-là d'imbéciles. Ceux qui ne sont pas des imbéciles, c'est ceux qui adhèrent à ces choses-là sans même savoir qu'il s'agit de théorie du complot. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment intoxiqué par ces choses-là. Moi, ça a pu m'arriver à moi également, mais si vous voulez, c'est pas un bon service, à mon avis, à rendre à ses amis que de les ménager. Voilà. Quand votre ami dit une bêtise, ben il faut lui dire. Voilà. C'est élémentaire.
L'opium des imbéciles, signé Rudi Reichstadt, ça paraît dans quelques jours chez Grasset. Merci Rudi Reichstadt d'être venu nous en parler.
Merci.
Dans un instant, les pesticides, les oméga 3, les fruits et légumes, les vitamines, tout ce qu'il faut savoir sur notre alimentation. Hervé Tisse sera notre prochain invité.
Europe 1, c'est arrivé demain, c'est jusqu'à 10h, avec vous Patrick Cohen.
Il y a plein de poisons dans nos assiettes, des pesticides qui nous veulent du mal et d'autres produits chimiques qui vont nous achever, ça c'est ce qu'on entend partout et que vous ne lirez pas dans le grand livre de notre alimentation qui vient de paraître chez Odile Jacob, où 25 membres de l'Académie d'agriculture de France, 25 experts répondent à une centaine de questions simples sur ce que nous mangeons, les bienfaits de nos aliments, leur conservation, leur cuisson, leur sûreté sanitaire, etc. Bonjour Hervé Tisse.
Oui, bonjour.
Physico-chimiste, inventeur de la cuisine moléculaire, vous êtes l'un de ces experts et vous prétendez, alors que les peurs n'ont jamais sans doute été aussi fortes, que notre alimentation n'a jamais été si encadrée et si saine.
Bon, je ne le prétends pas, c'est un fait. Donc, ce livre, il dit des faits, il n'est pas là pour donner de l'idéologie. Hein, donc,
vous avez l'impression qu'on vit dans la terreur alimentaire.
Ah, on vit dans la terreur alimentaire. Il y a même une nouvelle maladie qui s'appelle l'orthorexie, c'est-à-dire qu'on a peur de manger. On croit, moi, mes parents, mes amis, tout le monde croit que c'est plein de poisons, etc. Alors que, quand même, je prends l'aspartame, par exemple, qui a été réévalué par l'Europe. Ça a coûté des millions d'euros au contribuable européen.
Édulcorant qui remplace le sucre.
Voilà, oui. Et ça a été blanchi. Et comme par hasard, la stevia qui était refusée par l'Europe depuis des années a été acceptée au moment où on attaquait l'aspartame. Il y a des trucs bizarres dans la vie. Hein. Je ne suis pas complotiste, mais quand même.
Hervé Tisse, on nous décrit partout une agriculture aujourd'hui noyée dans les pesticides.
Attendez, pesticides, le mot pesticide. Un pesticide, il faut d'abord se demander ce que c'est. Au-delà d'un mot, des petites langues qui s'agitent au café du commerce. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un pesticide ? Un pesticide, c'est un composé qui est fait par quelqu'un ou quelque chose pour lutter contre les pestes. Vous voyez, quand il y a une pomme de terre dans le sol, une pomme de terre qui pousse naturellement, dans les Andes, si vous voulez, cette pomme de terre, si elle survit contre les vers, contre les nématodes, etc., si elle survit, c'est qu'elle sait se défendre. Avec quoi elle se défend ? Elle se défend avec des composés qu'elle met dans sa peau. Dans les 3 premiers millimètres sous la peau de la pomme de terre, il y a des glycoalkaloïdes toxiques. Voilà pourquoi il faut peler les pommes de terre, parce que sinon, vous tapez des fièvres, des vomissements quand vous en mangez trop. Ces alcaloïdes toxiques, ce sont, stricto sensu, des pesticides.
Mais des pesticides naturels.
Et ce sont les pires, parce que la pomme de terre, elle s'en fiche de tuer l'être humain ou le nématode. Elle tue tout le monde, parce qu'elle veut se protéger contre ceux qui l'agressent.
Tout est chimie, dites-vous. Vous dénoncez ou vous regrettez l'illchimisme des Français, c'est quoi ? Ils ont séché les cours de chimie à l'école ?
Non, à l'école, il n'y en a pas. C'est ça qui est dommage. Moi, j'avais essayé en 2001, qu'on a introduit dans les écoles primaires les ateliers expérimentaux du goût. On peut les faire encore aujourd'hui. Hein. C'est le premier atelier, c'est on montre à des enfants des écoles primaires ou même des maternelles comment faire 1 mètre cube de blanc en neige avec un seul blanc d'œuf. Bon, ça s'appelle de l'économie familiale, parce que si vous savez que vous pouvez faire plein de blancs en neige avec un seul blanc d'œuf, vous n'avez pas besoin de 10 blancs d'œufs pour faire une mousse au chocolat pour toute la famille. Il en suffit d'un. Bon, enfin bref. Donc dans ces ateliers, on avait une des idées, je voulais introduire la chimie à l'école. Pas de la chimie avec du calcul, bien évidemment, je ne suis pas complètement fou. Simplement l'idée de ce que c'est qu'une molécule et qu'un composé. Moi, je n'en demande pas plus. À l'école. Puis après, ça viendra progressivement. Mais les sciences de la nature arrivent plus tard au collège et c'est, malheureusement, le collège, c'est l'adolescence. Alors, on est travaillé par les hormones, on n'écoute plus bien. Et donc, finalement, notre population, c'est-à-dire nous-mêmes, on se retrouve plus tard à prendre des décisions qui engagent collectivement. Vous voyez, glyphosate, tout ça, il faut comprendre ce dont on parle. Sinon, on dit n'importe quoi. Ou alors, on se laisse aller avec les sirènes de l'idéologie. Et ça, c'est pas bien pour prendre une décision nationale.
Donc, pour nous résumer, la chimie...
À l'école.
La chimie à l'école. Tout est chimie. La chimie, c'est pas forcément du poison.
Bah non.
Et question 53 dans votre livre, les pesticides sont-ils dangereux pour le consommateur? Question d'actualité au moment où on veut éloigner les habitations des champs traités par pesticides.
Alors là, vous avez dit le bon mot, c'était dangereux. Alors, tout est dangereux. Un couteau, c'est quelque chose de dangereux. Je peux tuer quelqu'un avec un couteau. Bon. Alors, ce qui compte...
C'est le risque.
Voilà, exactement. Bravo. C'est le risque. Le danger, il y en a. Si je traverse la rue sans regarder, si c'est une rue en plein milieu du désert, il y a très peu de danger et il n'y a pas beaucoup de risque. Si je traverse l'autoroute sans regarder, là, il y a du danger et il y a du risque. Si je regarde... À ce moment-là, je minimise le risque. Donc, il faut absolument que les réglementations, les pouvoirs publics, etc., on ne parle que de risque, jamais de danger. C'est pas ça la question.
Et d'ailleurs, on voit dans votre livre que les dangers ou les risques ne sont pas là où on les croit. Par exemple, on se méfie des pesticides, mais on abuse du barbecue. Et des viandes cuites au barbecue.
Ah ouais, ça c'est terrible. Alors, barbecue, j'ai vu tout l'été la même chose. Donc, un barbecue, donc des braises. Alors, on met une grille par-dessus, on attend qu'il n'y ait plus de flamme. Ça, les gens disent, c'est très très important, il ne faut pas qu'il y ait de flamme. Puis on met la viande par-dessus. Et alors, immanquablement, quand vous chauffez une viande, elle se contracte. Hein. Ouais. Et donc, elle rejette les jus. Mais les jus, c'est des graisses. Ouais. Donc, les graisses retombent sur les braises, ça réenflamme les braises.
Et la flamme vient lécher la viande.
Et tout est noir, et tout est dégueulasse, c'est pas bien. Il y a un siècle, on n'a jamais cuit comme ça, on n'a jamais fait ça. Vous voyez, que si vous faites l'expérience de mettre une main près de votre joue, allez-y, mettez la main près de votre joue. Vous sentez du chaud. Vous touchez pas. Hein, vous sentez du chaud. Mmh. Ce sont des rayonnements infrarouges. Le feu, il émet des rayonnements infrarouges. Mais il les émet aussi bien en haut qu'à gauche, qu'à droite. Donc si au lieu de mettre votre viande par-dessus les braises, vous les mettez devant, assez près, eh ben, les jus vont tomber par en dessous. Vous les récupérez dans une lèche frite. C'est super bon. Mmh. Et vous servez la viande avec ses jus. Vous n'avez rien perdu.
C'est le principe des rôtisseries, des rôtissoires qu'on voit... Absolument. Chez les bouchers.
Et les jus tombent sur des pommes de terre, elles sont vachement bonnes. Non, c'est tout bien ça.
Et question aussi, alors ça c'est un slogan, il est partout depuis des années. Pourquoi nous faut-il 5 fruits et légumes par chaque jour, Hervé Thys?
Ah oui, non mais ça c'est le... En gros, la règle nutritionnelle, enfin non pardon, diététique, il ne faut pas confondre nutrition et diététique. La nutrition est une science, la diététique est une morale qui veut nous faire manger d'une certaine façon... en se fondant sur la nutrition. Alors, en gros, la vraie règle, c'est qu'il faut manger de tout en petite quantité et faire un exercice modéré. Ne retenez que ça du livre, ça sera suffisant. Et il ne faut pas diaboliser les aliments. Ce qui compte, ce n'est pas les aliments, c'est l'alimentation. Et donc, il faut manger de tout. Si vous voulez être en bonne santé, il faut manger de tout. Si vous prenez un seul ingrédient alimentaire, je ne sais pas, les pommes de terre ou le riz, vous ne serez pas en bonne santé parce que vous n'aurez pas tout ce qu'il vous faut. Hein. Alors, ce message nutritionnel du PNNS, hein, manger 5 fruits et légumes, c'est pas tellement qu'il faut manger 5 fruits et légumes, c'est que les groupes les plus défavorisés en France, ils mangent tout le temps pommes de terre, si possible frites, riz ou pâtes. Et ça, c'est pas bon, parce qu'il faut des vitamines, des oligo-éléments, des machins. Mais l'idée, c'est garder une seule idée diététique, manger de tout en quantité modérée et faire des essais. Et surtout, ne vous privez de rien si vous pouvez. Le foie gras ou le chocolat, c'est très bon si vous ne mangez pas que ça. Hein. D'abord, c'est très cher. Donc, mais il faut manger de tout. Et puis, il faut faire plaisir. Moi, je crains l'hygiénisme. C'est-à-dire des gens qui voudraient m'interdire tout. Quoi. Non. Je veux du café, je veux du thé, je veux du chocolat, je veux ma tartine, je veux ma confiture de Mirabelle, c'est la saison. profitez-en. Hein. C'est pas difficile de cuisiner. Tiens, achetez des mirabelles. En ce moment, elles ne valent pas cher. Vous mettez autant de mirabelles sans les noyaux que de sucre, un verre d'eau, et vous laissez à tout petit feu. Ça va brunir doucement. C'est envoûtant, tellement c'est bon. J'en ai pris au petit déjeuner ce matin.
Hein. Et juste après, lisez le grand livre de notre alimentation avec 25 experts de l'Académie d'agriculture de France, dont Hervé Tisse, chez Odile Jacob. Merci beaucoup, Hervé Tisse.
Merci à vous.
Europe 1.
Et dans un instant, on aura le plaisir d'accueillir Anna Girardot à l'affiche du nouveau film de Cédric Clapiche. 2 mois, à tout de suite.
Europe 1. Le dimanche, jusqu'à 10h, vous écoutez C'est arrivé demain avec Patrick Cohen sur Europe 1.
2 mois, c'est le nouveau film de Cédric Clapiche en salle mercredi prochain. Moi, M-O-I. C'est 2 mois, c'est Mélanie et Rémi, 2 jeunes célibataires, pas bien dans leur peau. 2 âmes en peine qui pourraient devenir 2 âmes sœurs si le destin les fait se rencontrer. C'est ce que se dit le spectateur tout au long du film qui suit les parcours parallèles, très parallèles, de ces 2 voisins solitaires qui habitent côte à côte à Paris. Or, chacun sait que les parallèles ne se croisent jamais. Ces deux-là se croiseront-ils ? Bonjour Anna Girardot.
Bonjour.
Vous êtes Mélanie, l'une de ces 2 mois. Vous portez donc la moitié de ce film, qui est une très belle réussite. C'est un grand Clapiche, original, drôle et profond. Je résumais le film à ma façon. Vous, que diriez-vous de ce film? Comment l'avez-vous perçu?
Alors, moi, j'ai tout de suite été charmée par cette histoire et je l'ai lue très rapidement parce que j'avais extrêmement envie de savoir si Rémi et Mélanie allaient enfin se rencontrer. Et au scénario, je savais que j'allais avoir la chance d'assister à du grand Clapiche, comme vous dites.
Avec votre personnage de Mélanie qui nous touche par sa fragilité, sa délicatesse. Clapiche aborde pas mal de thèmes, mais moi je l'ai vu aussi d'abord ce film comme une formidable comédie romantique. La trame romanesque, c'est l'idée d'une destinée amoureuse. Je crois que le premier titre du film d'ailleurs, c'était « Quelqu'un quelque part ».
Oui. Ça a été à un moment donné une des idées de titre et c'est très représentatif finalement de ce que ça veut dire parce qu'on a tous envie de se dire il y a quelqu'un quelque part pour nous et parfois on pense que cette personne va se, comment dire, débarquer comme ça dans notre vie et puis je pense qu'avec l'idée des grandes villes ça nous isole un petit peu et quelque part maintenant on utilise des applications de rencontre pour se rencontrer, on attend que les algorithmes le fassent pour nous.
Oui.
Alors qu'une vraie rencontre, quelque chose qui arrive par hasard et qui nous surprend, ça c'est quelque chose dont on rêve tous.
C'est dans la vraie vie. Oui, il y a du Jacques Demy dans ces personnages qui se cherchent et se croisent sans se trouver. Alors l'inconvénient c'est que vous ne jouez pas ou presque pas avec votre partenaire François Civil puisque... Bah, vous ne vous rencontrez pas.
Oui, c'est vrai qu'au début, on était tellement contents de jouer ensemble et après, on s'est aperçu qu'on n'allait pas jouer ensemble.
Oui. Je rappelle que vous étiez frère et sœur dans le précédent film de Cédric Clapiche, Ce qui nous lie.
Oui, on était en effet frère et sœur et au départ, on a eu peur que Cédric soit obligé de choisir l'un d'entre nous du fait qu'on ait été frère et sœur avant. Et heureusement, Cédric fait partie de ces réalisateurs qui ne s'enferment pas dans des étiquettes et qui a d'abord envie de travailler avec des acteurs avant de travailler avec des images.
Alors, parmi les thèmes du film, la vie parisienne, la solitude des grandes villes, vous venez de le dire, où on ne se parle que par réseaux sociaux interposés. Clapiche lui parle d'un conte urbain. Les réseaux sociaux sont des choses que vous ressentez, Anna Girardot ?
Les réseaux sociaux, je pense, ont ce problème d'isoler les personnes parce que ça fait, je ne sais pas combien de temps que Facebook existe, ça doit faire plus de 10 ans qu'on doit prétendre que tout va bien. Que mis à part la politique et l'extinction de l'humanité, nous, dans notre vie quotidienne, tout va bien, on est entre amis, on est souriant, alors que bah, y a des moments où on est un peu plus mal. Et puis, si on passe notre temps à regarder la vie des autres sur les réseaux sociaux, forcément, on se sent isolé et on se sent exclu.
Les réseaux sociaux, la solitude, la dépression des 2 personnages qui chacun consulte un psy. Pour Rémi et François Civil, c'est François Berléand. Pour vous, c'est Camille Cotin devant qui vous évoquez l'insatisfaction des rencontres en réseau. Extrait.
C'est dingue à quel point c'est devenu facile de rencontrer quelqu'un maintenant. En fait, on s'est un peu parlé par message, puis on s'est donné rendez-vous dans un bar. Mais bon, après, le lendemain, je sais pas. On s'est envoyé des messages, c'était sympa et tout, mais... Je sais pas, c'est comme si j'avais plus envie. En fait, je me suis dit que je faisais comme Guillaume. Guillaume, il fait ça, il sort avec plein de filles, il fait plein de rencontres.
Oui, ça, c'est Guillaume. Et vous? Vous avez fait ça pour quoi? Pour plaire? Pour prendre du plaisir ou pour faire juste comme Guillaume?
Ben, je sais pas.
Après coup, ce garçon, vous vous dites que c'était une vraie rencontre?
Mais c'est quoi pour vous une vraie rencontre?
Camille Cotin, Anna Girardot, on peut dire que ce film est une invitation à renouer des relations humaines réelles?
Oui, et d'ailleurs, on a présenté le film depuis juin un peu partout en France, ouais. Et c'est à chaque fois unanime. On a un nombre incroyable de jeunes femmes qui disent « mais merci, parce que moi j'y croyais plus et je sais pas. Je ne savais même plus comment pouvoir rencontrer quelqu'un. Et là, vous venez de me donner de l'espoir de tomber amoureuse. » Et c'est vrai qu'on oublie parfois que voilà, une vraie rencontre, c'est quelque chose de magique et qu'il faut se laisser porter à ça.
Vous nouez aussi des vraies relations et des dialogues avec les psys, comme dans la scène qu'on vient d'entendre. Vous connaissiez des psys avant le film? Vous saviez en quoi ça consistait, ces séances?
Bah, j'avais l'idée des films, en fait, que je me faisais des psys. Et pour le film, je suis allée voir une psy, parce que je voulais voir comment on est quand on est gêné, les premières paroles qu'on donne. Et ça a été incroyable. Moi, j'adore. Je la vois toujours.
Ah.
Parce que c'est, en fait, le pouvoir de la libération de la parole, quelque part, nous aide à juste mettre des mots sur les mots M-A-U-X. Et réussir à mettre des mots là-dessus, et d'essayer de comprendre comment on fonctionne, ça nous permet de faire... moins d'erreurs, ou en tout cas de se connaître un peu mieux.
Il n'y a pas que les psys qui arrivent à recréer du lien social, il y a aussi l'épicier d'en bas.
Oui,
c'est
Simon Apkarian. On adore, on rêve d'un épicier comme ça. Quelqu'un qui connecte les gens et qui fait attention à vous. Maintenant, moi, mon supermarché, il n'y a que des caisses automatiques.
Simon Apkarian, l'épicier du Paris rêvé de Cédric Lapie. Je dis Paris rêvé parce que c'est pas forcément, vous venez de le dire, c'est pas forcément tout le temps comme ça ou dans tous les quartiers. Et le paradoxe, c'est que comme dans d'autres Clapiche, Deux mois est un film qui fait aimer Paris, hein, qui donne à voir les bons côtés de Paris.
Donne à voir les bons côtés, je sais pas, mais en tout cas, c'est un vrai portrait de Paris. Paris est un vrai personnage du film, et en même temps, c'est la ville de Cédric, c'est la ville qu'il a toujours adoré filmer, mais l'histoire aurait pu se passer à Lyon. Enfin, l'idée, c'est surtout que voilà, dans les grandes villes, on est tous les uns à côté des autres, et parfois, on prend pas assez le temps de se voir, on passe 70% du temps les yeux rivés sur notre petite boîte noire, et on ouvre de moins en moins les yeux.
Avec un grand clin d'œil à Chacun cherche son châle, un des premiers films de Clapiche. Et on pense à un film qui a eu un énorme retentissement, Un monde sans pitié d'Éric Rochant, oui. Avec votre père Hippolyte Girardot.
Oui, Hippo, le film a été fait il y a exactement 30 ans, à ma naissance d'ailleurs.
Vous avez eu ce film-là en tête aussi, Anna Girardot?
Je l'ai eu un jour où on tournait dans le décor des appartements et que j'ai voyé les deux fenêtres comme ça de toit de Paris. Et ça m'a rappelé l'affiche du film de Rochant. On voyait mon père comme ça entre deux fenêtres et c'était vraiment exactement les mêmes. Donc j'ai envoyé une photo à mon père. Je lui ai dit « Regarde, 30 ans après, je perdure la tradition ».
Anna Girardot à l'affiche de Deux mois de Cédric Lapiche, mercredi prochain dans les salles. Vivement recommandé. Merci Anna Girardot d'être venue nous en parler.
Avec grand plaisir.
Europe 1.
Ainsi s'achève cette arrivée demain, émission préparée par Marina Pruzès, réalisée par Guillaume Vasseau et Julien Blanc. J'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain, 9h, évidemment dans 3 minutes, ah non, un peu plus, après le flash de 10h. Ce sera l'heure du grand rendez-vous. Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour.
Votre invité ce matin.
Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères et européennes. La France médiatrice sur tous les fronts. Mais pourquoi faire?
À tout à l'heure donc avec Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense. Très bonne journée à l'écoute d'Europe 1.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.